Merci beaucoup, Pasteur Pascal. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour la confiance aussi. Et merci pour cette communauté que je découvre. C'est vraiment une grâce pour moi. Alors oui, effectivement, je vais me présenter, mais ce sera vraiment quelques mots. Et puis le reste viendra pendant la présentation. Donc effectivement, je suis pasteur à Jumet, principalement dans une communauté qu'on appelle l'Assemblée protestante évangélique de Jumet, et où j'exerce donc le ministère pastoral, mais aussi dans une autre église qui s'appelle l'Église du Centre, toujours à Jumet, et dans laquelle aussi je sers. Et à côté de cela, je travaille dans une association qu'on appelle l'Institut de soins pastoraux au couple et à la famille, et qui est donc une institution dans laquelle nous travaillons avec plusieurs conseillers conjugaux, plusieurs médiateurs familiaux, psychologues, etc., etc., avec lesquels nous travaillons justement pour essayer non seulement d'aider, de conseiller les couples en difficulté, les couples en recherche, mais aussi pour donner des enseignements là où on nous appelle, là où on a besoin de nous. Et donc, c'est vraiment les deux volets de ce que je fais, une part dans l'Église et une part dans cette ASBL vraiment centrée sur le couple et la famille. Et le reste, je vous en parlerai pendant la présentation, ne vous en faites pas. Voilà. Et donc, je suis vraiment très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et effectivement, le nombre ne compte pas du tout. Nous sommes ensemble, nous sommes avec le Seigneur, et c'est ce qui est le meilleur. Et je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir vraiment partager certaines choses, et nous allons pouvoir recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Il y aura un temps de questions-réponses, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, et on partagera tout ça après, et je suis disponible pour expliquer en détail des choses que j'aurais mal dit, ou pour détailler, ou pour donner d'autres choses. Puisqu'ici, donc, ce sera un enseignement biblique, oui, mais avec des données sociologiques, psychologiques, puisque nous faisons partie d'un monde dans lequel la science s'est développée, nous a donné des informations en plus sur le fonctionnement des êtres humains, sur les sociétés, et ça peut nous aider, nous éclairer sur certains aspects de notre vie. Et donc, n'hésitez pas à m'interroger, n'hésitez pas par la suite à poser des questions, ce sera une très bonne chose. Alors, le thème que nous avons choisi pour aujourd'hui, le mariage et le célibat comme signe du royaume de Dieu. Alors, c'est un très beau thème, je l'aime beaucoup, pas parce que c'est moi qui l'ai choisi, mais parce que je crois que c'est un thème biblique. C'est un thème biblique. Et pourtant, pendant des siècles, on a eu du mal à prononcer ce genre de phrase. Ça a été difficile parce que pendant toute une période de l'histoire, la période, je vais dire avant la naissance de Jésus-Christ, on a considéré que tout ce qui comptait, c'était le mariage. Se marier, c'était l'objectif d'une vie, c'était le centre d'une vie, c'était là qu'on était réellement un être humain, c'était vraiment la voie d'accomplissement principale, et quelque part, les célibataires étaient un petit peu marginaux. Et on se disait, bon, ce n'est qu'un célibataire, ou ce n'est qu'une célibataire, et on donnait une importance centrale à la famille. Et c'est vrai, c'est l'enseignement biblique. Le couple est à la Genèse, au début de toute chose, c'est le couple avec lequel Dieu commence. Mais donc, il y a eu ce rejet, quelque part, du célibat, et cette mise en évidence, en valeur du mariage. Et avec la venue de Jésus-Christ, qui, en tant qu'homme, a vécu célibataire pendant des années et des années de sa vie, et a donné un enseignement assez particulier sur le sujet, eh bien, nous sommes partis dans l'extrême totalement inverse avec l'Église catholique romaine, que je ne critique pas, c'est simplement un fait historique. C'est que là, on est trouvé dans un plan de vie, un plan de société dans lequel le célibat était supérieur au mariage, si bien qu'on pouvait imposer à des personnes, les prêtres en particulier, ou les religieuses, d'être célibataires. Et donc on est parti de sociétés où le mariage est au centre, pour aller dans des sociétés où le célibat n'était pas au centre, mais en tout cas le célibat était considéré comme étant plus grand, plus valeureux que le mariage. Et il a fallu les réformateurs, il a fallu des enseignants inspirés et qui connaissaient la parole de Dieu pour réussir à mettre ensemble la théologie du mariage et du célibat. de ne pas les faire comme de ne pas les voir comme des choses complètement éloignées, de ne pas voir les uns comme plus grands que les autres, mais pour réellement voir le plan de Dieu au travers du mariage, au travers du célibat. Et c'est quelque chose, en fonction des milieux dont on vient, qui est assez difficile à saisir, mais vous allez voir qu'on va un petit peu voir ce qu'on veut dire par là. Et donc, dans nos églises, jusqu'aujourd'hui, malheureusement, on vit des ségrégations parce que, justement, on n'a pas une compréhension parfois, je dirais, complète, totale de la révélation de Dieu sur les relations humaines, en tout cas. Et donc, on va commencer d'abord par le mariage et on va bien évidemment survoler. Il y a d'autres choses que je pourrais aborder en détail par la suite, ce n'est pas du tout un problème. Alors, normalement ça doit marcher. Ah. Peut-être que je suis trop loin, c'est peut-être ça. C'est pas grave. Non. Ah, ok, d'accord, ça va. Ok, on peut donc aller à la diapositive. Oui. Ah, voilà, ça y est. Voilà. Le XXe siècle, ça c'est un peu plus sociologique, le XXe siècle a été réellement un moment particulier dans l'histoire de l'humain, avec en particulier l'industrialisation, c'est vrai, mais avec d'autres choses, avec plusieurs mouvements qui sont venus, qui ont un petit peu modifié les relations entre les gens, qui ont modifié les sociétés européennes. On connaît par exemple le mouvement de mai 68, par exemple. On connaît toutes sortes de mouvements qui sont venus et qui ont un petit peu chamboulé la question de la famille, la question du couple. Et donc, pendant le XXe siècle, la vision du couple, de ce qu'est un couple, a vraiment changé. La place de l'homme et de la femme dans le couple, dans la société, a changé. Au XXe siècle, c'est là qu'on a, on a tout doucement vu des femmes qui ont commencé à entrer dans des fonctions qui étaient auparavant réservées aux hommes. On a vu des femmes prendre part à la vie active de la société, s'engager, travailler, apporter quelque chose. Alors qu'on était dans une société dans laquelle l'homme était dominant sur sa femme et une domination lourde, parfois même hostile. Hein, on connaît des images de siècles et de siècles pendant lesquels l'homme a eu la possibilité d'avoir sur sa femme et sur ses enfants une domination hostile, négative parfois. On a aussi vu la transformation de la conception de la famille. Et ça continue jusqu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui encore, on discute dans la société de se dire, mais finalement, un mariage c'est quoi ? Un mariage c'est entre qui ? Un mariage pour quoi faire ? À quoi ça sert ? Donc non seulement on se demande qui est censé être dans le mariage, mais en plus on se demande est-ce que le mariage est bien nécessaire quelque part ? Et donc, on est réellement dans un moment de l'histoire où les choses changent. Et c'est pour ça que parfois même dans l'Église, nous perdons certains repères, parce que tout ce qui est autour de nous, ce qu'on appelle le monde, nous influence quelque part et nous déstabilise vis-à-vis des vérités de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important que nous puissions revenir sur ce qui est écrit. Revenir sur ce qui est écrit et réussir à avoir une conception biblique des choses. L'apôtre Paul nous exhorte en disant de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement de l'intelligence, il implique toute notre conception du monde, tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Cette vision que nous avons sur les choses, sur les personnes, sur les institutions, doit être renouvelée par la parole de Dieu, renouvelée par l'Esprit de Dieu. Et si nous n'entrons pas dans cette dimension de renouvellement, eh bien nous allons, sans le faire exprès, nous laisser conformer au monde. Il dit, ne vous laissez pas conformer au siècle présent, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. En d'autres termes, si je ne me renouvelle pas, si je ne me laisse pas renouveler par Dieu, je vais me conformer. Et justement, la société d'aujourd'hui, vis-à-vis du couple, de la famille, a apporté des choses positives. Ce n'est pas une mauvaise chose que maintenant les femmes puissent participer dans la société. C'est pas, fondamentalement, ce ne sont pas des mauvaises choses. Mais à côté de ça, il y a un renversement des valeurs. Il y a un renversement des principes. Il y a un renversement, quelque part, de la grâce telle que Dieu a voulu la communiquer aux familles. Et donc, de plus en plus, les relations entre les hommes et les femmes sont modifiées, les relations dans les familles sont complexifiées, des attentes paradoxales. La plupart des gens qui entrent dans des mariages, quand on les interroge, ne sont pas si épanouis que ça, ou parfois peuvent même dire « je ne sais pas si j'ai bien fait ». Nous, pasteurs, nous rencontrons plus de couples en difficulté que de couples où tout va bien. Et quelque part, même dans l'Église, on se rend compte que les difficultés sont là, elles sont prégnantes, et on se retrouve devant parfois des impasses, disons. Et donc, un changement sociologique très particulier qui doit nous pousser à rechercher ce renouvellement de l'intelligence. Le mariage. Alors le mariage, bien évidemment, ce qui est particulier, c'est que c'est réellement l'institution la plus vieille du monde. Ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est la première institution de Dieu. C'est quelque part, après la création, la plus belle création de Dieu. Et on est tous d'accord pour le dire, en particulier les mariés, pour dire que le mariage, c'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose de fantastique. C'est un don de Dieu pour l'humanité. Et premièrement, pourquoi le mariage ? Alors, la toute première chose pour laquelle nous pouvons réellement nous arrêter, c'est de dire « Le mariage a été envoyé par Dieu à l'homme pour briser sa solitude. » Pour briser sa solitude lorsque il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et quand on dit « Il n'est pas bon » en hébreu, c'est « lotov », c'est-à-dire « ce n'est pas complet, ce n'est pas parfait, ce n'est pas... » parce que effectivement, le terme « bon » en français, ça pose plutôt un jugement de valeur, de dire « c'est bon » ou « c'est pas bon ». En hébreu, quand on dit « c'est pas bon », ça veut dire « c'est pas complet ». Il y a un manque, disons. Il y a un manque, il y a quelque chose qui manque, il y a un besoin qui est là. La chose n'est pas complète. C'est un petit peu comme un puzzle dont il manquerait la moitié des pièces. On dirait, en hébreu, on dirait « c'est pas bon », c'est pas complet, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Et donc, Dieu, en voyant l'homme, dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». En d'autres termes, je vois un homme qui n'est pas complet, il lui manque quelque chose, je lui ferai une aide semblable. Et après que Adam ait vu tous les animaux de la création passer devant lui pour leur donner un nom, il n'en trouve aucun qui puisse être son vis-à-vis. C'est quelque chose que parfois nous avons tendance à négliger, mais avoir un vis-à-vis, c'est quelque chose de fantastique. Avoir quelqu'un qui puisse être mon vis-à-vis. Pas forcément mon vis-à-vis pour dire tout ce que je rêve, tout ce que je pense. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Des pâtes. T'es d'accord ? Oui, on mange des pâtes. Et donc, c'est pas le fait d'avoir quelqu'un qui va me répéter tout ce que je dis. Pas un miroir qui va me donner tout ce que je veux savoir. Pas quelqu'un qui va être identique à moi, mais quelqu'un qui va pouvoir avoir une relation de semblable vis-à-vis de moi. C'est pour ça qu'il dit « je lui ferai une aide semblable ». Et on insiste sur ce mot. Pas une aide, non, un semblable, une semblable. Et donc Dieu envoie le mariage dans la création pour briser la solitude et l'isolement de l'homme. Une chose qu'il faut vraiment mettre en évidence, c'est que Adam, dans le jardin d'Éden, était avec les animaux, avec les plantes, avec toutes les choses que Dieu avait créées. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que Adam était avec Dieu. Pas encore de péché, donc une communion parfaite avec Dieu, une intimité parfaite avec Dieu. Quand le péché n'était pas encore là, il n'y avait pas de problème, si on veut dire comme ça. Donc on ne perdait pas ses clés, on ne se trompait pas de rue, tout se passait très bien. Au temps d'Adam, il était dans la communion parfaite avec Dieu. Et en hébreu aussi, on arrive à déterminer que Dieu venait, on le voit en français bien sûr, Dieu venait régulièrement rendre visite à Adam. Au coucher du soleil, en tout cas vers la fin de la journée, on dit à 18h souvent, pour discuter avec Adam, avoir cette communion-là. Si bien qu'un jour il arrive et il lui dit, où es-tu ? C'est comme ça qu'il peut lui dire, un jour où es-tu ? C'est que les autres jours il était là. Donc Adam avait une relation parfaite, on peut le dire comme ça, une communion parfaite avec Dieu. Mais malgré le fait que Adam avait une communion parfaite avec Dieu, le créateur de toutes choses, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. C'est vraiment particulier parce qu'on se dit, et si on veut exagérer, et vous allez comprendre que j'exagère et qu'il ne faut pas prendre la chose au mot, Dieu ne suffisait pas à Adam pour le compléter. Il fallait autre chose, il fallait quelqu'un d'autre avec qui Adam puisse avoir un vis-à-vis. Et donc, quelque part, c'est pour montrer la force qu'il y a dans le mariage, la puissance que Dieu y met, c'est que c'est la seule institution humaine dans laquelle l'homme, la femme, peuvent trouver une complétude, être complet. Et donc, Dieu envoie le mariage pour briser la solitude et l'isolement. Ceux qui sont seuls, ceux qui vivent seuls, que ce soit des personnes âgées, des personnes jeunes, des personnes d'âge moyen, se rendent compte à quel point vivre seul, ça peut être pénible. Ça peut être pénible. On n'a personne avec qui parler, on n'a personne à qui poser des questions, on n'a personne pour nous aider, on n'a personne avec qui rigoler. Vous savez, la joie de rigoler, nous rigolons tous. Mais c'est une joie, mais quand vous n'avez personne avec qui rigoler, mais vous rigolez tout seul ou vous ne rigolez pas. Et donc, Dieu a vu cette solitude qu'il y avait dans l'homme et il a voulu briser cette solitude et briser cet isolement. Et Dieu va tellement bien faire ce travail de briser la solitude et l'isolement que quand Adam va voir Ève, il va dire « Voici maintenant la chair de ma chair, l'os de mes os. » C'est-à-dire, il était rempli de joie, Adam, il était tout content pour dire que Dieu avait répondu à ce dont il avait besoin. La Bible ne nous dit pas que Adam se plaignait beaucoup. Elle ne nous dit pas qu'il se disait « Oh là là, moi j'aimerais bien. » Mais en tout cas, Dieu a vu ce besoin et il a envoyé la femme. Ce qui fait que, quelque part, le besoin de l'homme ou le besoin de la femme, l'attirance pour le sexe opposé, pour le dire comme ça, sans parler d'attirance physique, mais le fait d'avoir un regard pour le sexe opposé, c'est inscrit en nous. C'est inscrit en nous parce que nous savons que c'est là que nous pouvons trouver notre complétude. Briser la solitude et l'isolement, premier objectif du mariage. Ensuite, bien évidemment, Dieu a aussi envoyé le mariage en l'humanité pour permettre de propager l'espèce humaine. Multipliez-vous, dit-il. Donc, alors avec le temps, c'est un motif qu'on a un petit peu mis de côté en disant oui, mais bon, c'est pas important, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est aussi pour ça que Dieu a fait le mariage. C'est aussi pour que les gens aient des enfants et que ces enfants puissent peupler la terre, puissent prendre de la place dans l'univers et voilà. Dans l'univers sur la terre, en tout cas. Et qu'on puisse aller dans une humanité qui va toujours en avant, qui se développe avec des nouvelles personnes, et qu'on n'arrive jamais à ce qu'il n'y ait plus d'êtres humains. Parce que bien évidemment, si vous êtes deux, et qu'il y en a deux, et puis que ça s'arrête, il n'y a plus personne. Donc, c'était le fait de donner à l'humanité une destinée longue et importante. Pendant des siècles, malheureusement, on a considéré que le point 2 était le point essentiel du mariage. De dire qu'on se marie pour avoir des enfants. On se marie pour former un foyer, on se marie pour permettre à l'humanité de se développer, ou en tout cas d'avoir de plus en plus de membres, ce qui fait que vous connaissez dans la Bible comment est-ce qu'on parlait aux femmes stériles avec tellement de méchanceté. Hein, vous connaissez Anne, toutes ces femmes stériles étaient souffrantes, elles souffraient parce que quelque part on n'était pas valorisé, donc on ne pouvait pas former un foyer. Et ça fait beaucoup de mal. Parce qu'on a oublié la première raison pour laquelle Dieu a fait le mariage, c'est d'abord pour que nous puissions avoir un vis-à-vis. D'abord pour que nous puissions vivre dans une communion de vie avec une autre personne. Mais en tout cas, c'est aussi un objectif, propager l'espèce humaine. Troisièmement, c'est une raison qui est déduite. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire tout à fait essentiel, mais c'est vrai que l'apôtre Paul va dire, afin qu'il n'y ait pas d'impudicité, que chaque mari ait sa femme et que chaque femme ait son mari. En d'autres termes, le fait d'être seul, ça nous encourage, ça peut encourager les personnes à ne pas avoir de continence, à ne pas avoir de maîtrise d'eux-mêmes et à ne pas pouvoir quelque part réaliser aussi leurs différents besoins physiques, psychiques. Et donc, Dieu a voulu aussi établir un ordre, un cadre pour le vécu de la sexualité, un cadre pour le vécu de certaines émotions, un cadre pour le vécu du don exclusif l'un à l'autre, se donner l'un à l'autre, et c'est aussi pour ça que Dieu a créé le mariage. Ensuite, quatrièmement, Dieu crée le mariage pour qu'il soit un lieu où l'on communique la grâce de Dieu, pour qu'on communique la vérité de Dieu. Et il dit dans Deutéronome chapitre 6, en parlant des commandements, « Tu les inculqueras à tes enfants. » En d'autres termes, même si le mariage a d'abord pour objectif d'avoir un vis-à-vis, d'être complet. Le fait que dans le mariage, les gens procréent et des enfants, ça permet que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu se transmette de génération en génération et que Dieu continue à être le Seigneur des enfants qui arrivent et continue à être ce Père qu'on accueille dans son cœur. Et donc c'est aussi un des objectifs importants, c'est de la communication de la grâce et de la vérité de Dieu. Et cet objectif-là, on peut le réaliser déjà à deux, simplement en couple, homme et femme, de communiquer ensemble la grâce de Dieu, de vivre ensemble la grâce de Dieu, de connaître sa vérité, des couples qui prient ensemble, des couples qui partagent la parole de Dieu ensemble, des couples qui chantent les louanges de Dieu ensemble. C'est un endroit où chacun peut être fortifié, peut être encouragé et peut partager réellement la présence de Dieu. Donc, quatre grands objectifs du mariage. Vous dire voilà, pourquoi est-ce que Dieu a fait le mariage? Pour ça, en particulier, et puis on va voir quelque part le but ultime, vraiment la cerise sur le gâteau, comme on pourrait dire, du mariage. Alors, un mandat qui est divisé en deux, le fait de procréer, mais surtout le fait de dominer la terre, de prendre soin de la terre, d'avoir autorité sur la terre. Vous voyez, ce sont toutes des petites choses quelque part qui, même dans le monde, sont en train de s'en aller. La pensée de l'homme comme étant à la tête de la création, c'est quelque chose qu'on remet en question tous les jours, en disant quelque part, mais non, l'homme c'est un produit de l'évolution quelconque, il n'a pas une réelle importance sur qui que ce soit, les animaux sont plus développés que l'homme, et quelque part on n'accepte plus l'idée que l'homme est soit garant de l'humanité, soit et une place de particulière, une place de choix. Parce que l'homme est la seule créature créée à l'image de Dieu. Et quand Dieu crée Adam, c'est parce que en Adam, il y a quelque chose qu'on ne trouve nulle part d'autre, c'est l'image de Dieu en lui. C'est-à-dire l'impression, le cachet de Dieu en lui, qu'il fait de lui un être tout à fait hors du commun. Un être hors du commun, d'abord, parce qu'il peut dire non à Dieu. Quand nous péchons, à chaque fois, nous disons non à Dieu. Et quand Adam et Ève ont péché, ils ont dit non à Dieu. Ton commandement, non. On fait comme bon nous semble, non. Et donc, quelque part, en créant l'homme, Dieu a créé un homme libre, doté du libre arbitre, qui pouvait faire des choix qui allaient complètement à l'encontre de sa volonté. Et c'était comme ça que Dieu voulait que les choses soient faites. Mais en tout cas, cet homme a été créé pour procréer, pour dominer la terre, pour gérer la terre. Et donc, c'est là que Dieu va instituer le mariage. Et d'ailleurs, c'est, dans les cérémonies de mariage, c'est un texte qu'on cite souvent. Il va instituer le mariage comme étant quelque chose d'universel, comme étant quelque chose qui va de la Genèse à l'Apocalypse, comme étant quelque chose qui va rester toujours dans l'institution des humains. Il imprime cette parole-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il institue le mariage. C'est pourquoi. Et en disant l'homme s'attachera à la femme, il est en train de dire, ben, quelque part, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour une élite, c'est pour tout le monde. L'homme, la femme s'attacheront et deviendront une seule chair. Quel verset puissant. Je crois que même les païens ou même les non-chrétiens, s'ils avaient à entendre ce verset, pourraient eux aussi dire « Mais quelle merveille !» Parce que quand on vit quelque part les relations de couple, on voit que c'est vraiment ça. En tout cas, c'est vers là qu'on veut tendre. Le fait de devenir une seule chair, le fait de devenir une seule personne, le fait d'entrer dans une communion dans laquelle, quelque part, on ne sait plus qui est qui. Et dans lesquels on sent qu'il y a une communauté de vie entre les deux personnes. Et il y a certains époux, quand ils parlent, on a l'impression que c'est leur femme qui parle. Sors de ce corps, on aurait presque envie de dire, parce qu'ils utilisent les mêmes expressions qu'elle. Ils parlent comme elle, ils pensent comme elle, ils ont parfois les mêmes mimiques. Et on se dit, mais enfin, c'est... Et certains disent même que parfois, quand la communion entre les époux est très forte, il peut même arriver qu'ils se ressemblent physiquement. tellement... bon, ça, effectivement, c'est pas prouvé, mais c'est pour dire que la communion entre un homme et une femme peut être très très forte. Si bien qu'à un moment donné, on peut dire, bah oui, bah, c'est une seule personne. Et certains vont dire, bah oui, mais mon épouse, c'est moi, et l'épouse dit, bah, mon mari, c'est moi, il n'y a pas de différence. Quand on peut dire à quelqu'un, va le dire à mon épouse, non, mais Satan, dis-le à mon épouse, elle me le dira, elle, c'est moi, et moi, c'est elle, il n'y a pas de différence. Et quelque part, tous les êtres humains, qu'ils connaissent la parole de Dieu ou pas, sont en recherche de ça. Cette communion. Cette communion, ce sentiment d'être avec le moi qui est différent. Parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est que l'autre, c'est moi parce que nous ne faisons qu'une seule chair, mais l'autre est différent de moi quand même. Et donc, c'est ça le paradoxe du mariage. Un autre, avec qui je suis appelé à être une seule personne, mais qui en fait n'est pas moi. Et avec qui il va falloir composer. Mais c'est ça la merveille de Dieu. C'est la merveille de Dieu, et je crois que le mariage, ça fait partie des choses, quand on lit l'institution du mariage dans la Bible, ça fait partie des choses qui nous montrent que la Bible ne ment pas. Parce que ce qui est écrit, on peut le voir, cette soif que les gens ont d'être avec quelqu'un. Et on voit les jeunes gens, ils veulent un petit copain, ils veulent une petite copine, parce qu'ils sentent bien qu'ils ont besoin de être avec quelqu'un avec qui je peux tout partager, avec qui je peux tout dire, qui a son cœur dans mon cœur, et il n'y a pas de différence entre les deux. C'est un besoin de l'être humain. Un besoin de l'être humain qui s'opère en plusieurs étapes. Premièrement, il faut quitter son père et sa mère. Ça veut dire briser les relations les plus fondamentales. Le père et la mère, c'est le centre de notre vie quand nous sommes enfants. Mon père, ma mère, c'est eux qui font de moi ce que je suis, qui me modèlent, et voilà. Et donc, il faut d'abord quitter son père et sa mère, c'est-à-dire mettre fin à un premier système, à un premier environnement, et il faut s'attacher à sa femme, coller à sa femme. En d'autres termes, quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, c'est parce qu'on considère que l'initiative vient de lui. C'est la raison pour laquelle, souvent, les maris vont chercher la fiancée chez elle le soir, parce que ça vient de là, on a toujours considéré que l'homme va s'attacher à sa femme. Enfin bon, même si dans la réalité, parfois, sans le faire exprès, une femme peut s'approcher d'un homme, etc., etc. Mais en tout cas, on considère que, comme ce manque a d'abord été vécu chez Adam, ben, ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Sans importance. Mais en tout cas, ça a une importance dans le fait que Dieu dit l'homme est responsable de cette union. L'homme est responsable de cette communion qui va naître entre les deux. Ils doivent devenir une seule chair. Une seule chair. Alors, bien évidemment, la chair, ça implique le corps. C'est vrai. C'est évident que... Dans les relations intimes, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Il n'y a plus de différence entre les deux. C'est une seule personne. Et d'ailleurs, c'est fait de telle sorte que les personnes soient le plus proches possible. Mais quelque part, quand on dit une seule chair, c'est un partage de tout. Un partage des finances, un partage de l'amour, un partage du temps, un partage de communication. C'est une unité, c'est une communion intime et c'est un engagement réciproque. Un engagement réciproque, ce qui fait que les époux se versent l'un dans l'autre, se donnent l'un à l'autre. Et plus ils grandissent, plus ils se donnent l'un à l'autre, et plus ils se donnent l'un à l'autre, plus il n'y a plus de différence entre les deux parce qu'ils partagent tout ce qu'ils sont. Ils partagent tout ce qu'ils ont. Et ça, c'est l'objectif de Dieu pour le mariage. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est l'objectif de Dieu, mais le temps d'y arriver, c'est difficile. Parce que bien évidemment, en attendant, on est des humains et on a nos caractères et nos idées, nos pensées, nos conceptions, notre vision des choses, nos principes. Mais en tout cas, c'est l'objectif de Dieu. Et quelque part, quand on dit un couple en difficulté, ça ne doit pas être un couple où ça crie. Un couple en difficulté, ça ne doit pas être un couple où on boude beaucoup. Un couple en difficulté, ça ne doit pas être un couple où... on ne mange pas ensemble le soir. Un couple en difficulté, c'est un couple qui n'est plus dans ce cheminement de devenir une seule chair. un couple dans lequel les deux époux ou un des deux a accepté l'idée de dire « moi je vais vivre ma vie de mon côté, on est toujours ensemble, mais je ne suis plus dans cette dimension d'aller vers l'autre pour faire une seule chair avec lui ». Ça va se manifester bien évidemment par des disputes, mais quelque part, ça ce sont les symptômes. La source, souvent, même si elle est inconsciente, même si elle est implicite, c'est le fait qu'il n'y a plus cette dynamique de vouloir ou de comprendre que l'on est appelé à devenir une seule chair, une seule personne, une communauté de vie. Alors, le mariage chrétien, maintenant, le mariage biblique, alors, premièrement, c'est un mariage monogame, c'est-à-dire un mariage où un seul homme épouse une seule femme, pas deux, pas trois, pas quatre, et pas le contraire, pas une femme qui a 10 hommes, même si ça n'existe pas, mais enfin bon, ça pourrait exister hein, dans un imaginaire complètement fou. Mais en tout cas, le plan de Dieu, c'est la monogamie. Et vous savez que dans la Bible, pendant tout un temps, la polygamie a été tolérée. Des gens, des hommes et des femmes ont vécu dans la polygamie, mais plus le temps a avancé, plus Dieu a voulu montrer aux hommes son plan originel. Un homme pour une femme. Quelque part, toujours par égard à ce principe, à cet objectif de base qu'il a mis dans la création, c'est que nous fassions une seule chair, nous soyons une seule personne. Et donc, pour ça, il faut être deux. Si on est 15, ça ne marche pas. Et on ne peut pas réellement tout partager si on est 15. On peut partager, oui, de l'amitié avec une, de la gentillesse avec une autre, de la nourriture, de la passion avec une autre. Mais en tout cas, c'est quand on est deux dans une relation qu'on peut réellement faire un. Faire un et réellement tout partager. Le mariage est une relation exclusive. C'est-à-dire que ça exclut de facto toutes les autres personnes. Une fois que les époux se marient, eh bien, ils s'interdisent tous les autres en se mariant. C'est très particulier, hein, parce que j'entends bien dans le monde, on dit oui, mais allez, c'est pas ce qui compte, hein, c'est pas important. Pour Dieu, c'est important. Pour Dieu, c'est important. Et souvent, dans les cérémonies de mariage, on dit aux gens, voulez-vous épouser un tel, l'aimer, le chérir, abandonnant tout autre? En d'autres termes, il ne s'agit pas de se dire, ben oui, je l'épouse elle, mais bon, peut-être bien que non. Voilà, il n'y a qu'elle. Et d'autres prennent un parallèle en disant, un parallèle avec l'enseignement de Paul aux Romains, en disant, dès lors qu'un homme se marie avec une femme, ou le contraire, eh bien, toutes les autres femmes meurent pour lui. Elles ne sont plus vivantes. Comme Paul dit, une fois que vous êtes entré dans le Christ, vous êtes mort au péché et vous êtes vivant pour Dieu. Et en parallèle, on pourrait dire, dès lors que je me suis marié avec une telle, eh bien, je suis vivant pour elle, mais mort pour toutes les autres. Je n'existe pas. Et les autres n'existent pas parce que c'est une monogamie. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut répéter aux gens. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de juger ou d'attaquer les gens qui auraient pu commettre une erreur. Mais en tout cas, notre responsabilité de chrétien, d'enfant de Dieu, de responsable d'église, c'est de dire ce que la Bible dit et de rappeler ces principes, parce que dès lors qu'on les a dans la tête, on arrive plus facilement à rester attaché. Quand on est distrait, aujourd'hui on marie plein de gens qui, même dans les églises, on marie des gens qui n'ont pas une seule idée de ce qu'est le mariage chrétien, qui n'en savent pas grand chose, mais qui, voilà, allez-y. Et puis après, ben, dans le feu de l'action, tout le monde se dit « Ah, mais je ne savais pas, je n'avais pas pensé, je pensais que... » Oui, mais c'est trop tard. Là, malheureusement, dans la vie, on ne sait pas rembobiner et dire « Je vais recommencer quand j'avais 25 ans. » Non, c'est fini. C'était une fois, maintenant tu as 50 ans, c'est fini. Ce qu'il y a devant toi, c'est 55, c'est 60, c'est 75, mais jamais on retournera en arrière. Et malheureusement, c'est ça le problème, hein, c'est que... Eh bien, je dis ça pour moi, je dis ça pour tout le monde. On a toujours l'impression qu'on peut retourner en arrière. On aimerait bien. Mais le train ne veut pas. Hein. Le train, c'est devant, devant et devant. Un mariage monogame, un mariage hétérosexuel, bien évidemment, ça aussi, ça pose question. Ça pose question, ça pose débat. Mais malheureusement, il faut revenir à ça. Et même si je ne me permets pas de juger tous les hommes que je vois, ou qui pourrait vivre en homosexuel ou autre, notre responsabilité, c'est de dire la parole de Dieu, de dire hétérosexuel à un homme et une femme. Pas autre chose. Pas un homme et un animal. Un homme et une femme. Et ça, c'est quelque chose d'établi par Dieu de manière indéniable dans la Bible. Malheureusement, tous ceux qui veulent dire le contraire sont obligés de tordre les textes. Parce que le texte est tellement évident que, à moins d'inventer des choses qui ne sont pas écrites, il n'y a pas moyen de... Voilà. C'est évident dans le texte. Et c'est essentiel parce que il faut une altérité. C'est-à-dire que Dieu a permis qu'il y ait des différences entre l'homme et la femme, et c'est cette différence homme-femme qui permet de devenir une seule chair. S'il n'y a pas de différence profonde entre les deux êtres qui s'unissent, ils ne savent pas réellement devenir une seule chair. C'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Déjà. C'est une paire, exactement. Voilà. Bon, c'est vraiment... J'aurais pas dit mieux. C'est une paire. Ce sont deux personnes qui sont ensemble. Bon, ça, c'est... Mais en tout cas, ils ne savent pas être un couple exactement parce qu'ils ne savent pas communier. C'est un petit peu comme une clé qu'on met dans une porte, dans une serrure plutôt. Et vous mettez la clé dans la serrure, la porte s'ouvre. Vous essayez de mettre deux clés ensemble, ça ne s'ouvre pas. Vous essayez de mettre deux serrures l'une contre l'autre, il ne va rien se passer. Parce qu'il faut cette altérité. Il faut qu'il y ait d'une part le manque de la clé et d'autre part la clé. En dehors de ça, on ne sait pas réellement arriver à une union. Ceci dit, on peut avoir une relation amoureuse, sentimentale. C'est-à-dire que, oui, les homosexuels, certainement qu'ils s'apprécient. Certainement qu'ils s'aiment bien, qu'ils ont des choses à partager, qu'ils ont... Bien évidemment. Mais en tout cas, ils ne savent pas entrer dans le plan de Dieu. Ils vont vivre une vie à côté du plan de Dieu, ils vont certainement s'amuser, être très, très, très contents, mais ils ne pourront pas s'aligner au plan de Dieu. C'est notre rôle de le dire. Notre rôle de le dire en ne jugeant pas, en accueillant ceux qui se repentent, mais nous devons vraiment rester attachés à ça. Et nous ne devons pas laisser l'impression au monde que nous dévions de ça. Parce que c'est essentiel pour l'humanité. Ça fait partie des principes les plus gravés dans l'homme, gravés dans le ciel, c'est l'homme et la femme. Le mariage constitue une alliance. Une alliance, c'est-à-dire un engagement réciproque avec un cadre, avec des engagements, avec des obligations. Avec des obligations. Alors ça, bien évidemment, aux préparations au mariage, on prend un marteau pour le taper sur la tête des gens. Il y a des obligations. Il ne s'agit pas de rentrer et puis de se dire « je fais ce que je veux » et puis voilà, et en avant, je vais en discothèque, je vais voir les 10 jockeys et je m'amuse. Non. C'est une alliance. C'est un contrat. C'est un contrat réciproque, c'est-à-dire que chacun doit s'engager à quelque chose. Et c'est une alliance qui est appelée à être extérieurement vue. C'est-à-dire que pour qu'une alliance, même dans le monde, soit valable, ou certains, surtout les alliances importantes, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui la voit, un témoin, comme on dit. Parce qu'il faut non seulement que les gens s'engagent réciproquement, mais il faut aussi que d'autres, quelqu'un d'autre puisse dire, oui, c'est bien ça qui s'est passé, je l'atteste. Raison pour laquelle on encourage les gens à se marier. À se marier, même si ça pose question encore aujourd'hui, et nous pouvons avoir beaucoup de douceur et de compassion pour ceux qui sont perdus, mais nous devons encourager les gens à se marier. Donc une alliance réciproque dans laquelle chacun a des engagements, chacun a des droits, chacun a des obligations, mais en tout cas une alliance qui est cadrée, cadenassée. Raison pour laquelle quand on dit on se marie, on dit je me mets la corde au cou, ou il m'a mis la corde au cou. Parce qu'une fois que je suis rentré, je ne sais pas ressortir. C'est triste, bien évidemment, quand on se dit, oh, aïe, aïe, j'en ai ras-le-bol, moi, bon. Mais, en tout cas, c'est comme ça. C'est un petit peu comme quand on achète une maison. Si jamais vous voulez vendre deux chaises ici, vous pouvez faire un petit document sur lequel vous écrivez, moi, Mehdi, je lègue à Pascal deux chaises pour son living. Et on signe tous les deux, on dit le 19 mai à Boitte-Villers. Si jamais on achète une maison, on ne va pas faire un petit document en disant je vous vends ma maison et voilà. On va aller devant un notaire. il faut un notaire. S'il n'y a pas de notaire, bien évidemment, moi je pourrais toujours dire par la suite, ben non, c'est pas ça que j'ai dit, et l'autre pourra dire, ben moi non plus, j'avais pas dit ça. Et donc c'est important que cette alliance soit une alliance publique. Pourquoi ? Ben d'abord parce qu'il faut des témoins, mais aussi pour que tous les autres sachent qu'à partir de ce moment-là, il y a entre les époux une relation exclusive et qu'ils doivent laisser cette union se développer. C'est vraiment important. Donc une alliance est vraiment le mot qui définit le mieux le mariage chrétien, une alliance. Alors que dans le mariage, je dirais non chrétien, le mariage du monde, ben on s'aime bien, on veut certainement bâtir une vie ensemble, mais on n'a pas d'obligation qui s'impose à nous. C'est-à-dire que voilà, on les fait entre nous. On se marie et puis on dit, ben voilà, on va avoir un compte commun ou pas, on va acheter une voiture ou pas, on discute les choses. Dans le mariage chrétien, à la seconde où j'entre dans l'alliance, je n'ai rien à discuter, les conditions me sont déjà imposées, mes obligations sont déjà sur moi. Elles s'imposent à moi, je ne sais pas les discuter. C'est un mariage pour la vie, le mariage chrétien, une relation permanente qui est appelée à rester tout le temps. Pendant des siècles, on a appelé ça, à juste titre, je trouve, l'indissolubilité du mariage. En d'autres termes, le mariage est indissoluble, on ne sait pas le briser. Une fois que les gens sont mariés, on ne sait rien faire d'autre que les laisser aller. Relation permanente, en tout cas prévue par Dieu pour la vie. Puisque bien évidemment, une fois que vous faites une seule chair avec quelqu'un, vous ne savez pas vous en aller et aller faire une seule chair avec quelqu'un d'autre. Vous êtes lié à cette personne-là. Alors bien évidemment, aujourd'hui, on vit, même dans l'Église, des problèmes de divorce. Et nous ne devons pas faire la politique de l'autruche en disant « on n'a pas vu, on n'est pas au courant, on n'a rien vu ». Non, le divorce existe dans l'Église, il faut s'occuper de ces personnes-là. Mais en attendant, nous devons mettre la base qui dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Alors bien évidemment, il y a des situations tout à fait exceptionnelles qui peuvent arriver. Et c'est pour ça que les pasteurs existent, des situations, par exemple, de violence conjugale. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma petite expérience pastorale d'avoir un mari qui frappe sur sa femme avec un verre de vin. Je ne vais pas lui dire, écoute ma sœur, reste avec lui, reste dans la maison en tout cas, parce que si un jour on la retrouve morte en bas des escaliers, il faudrait bien que je m'explique de la raison pour laquelle je l'ai encouragée dans ce sens-là. Donc il y a des situations exceptionnelles qui vont nécessiter une séparation par exemple, que les époux restent de leur côté parce qu'il faut protéger la vie des gens, il faut protéger la vie des enfants. Il y a des situations exceptionnelles dans lesquelles un époux peut s'engager obstinément dans un adultère extérieur où bon voilà on doit trouver une solution de sauvegarde comme on dit, mais en tout cas le principe établi par Dieu ça doit être le mariage pour la vie. Et l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, tant que son mari est vivant, une femme est liée à lui. Donc, tant que les époux sont vivants, ils sont liés l'un à l'autre. Et donc, ils ont beau aller dans tout l'univers, malheureusement, cette union-là existe et on ne sait pratiquement rien faire. Alors, bien évidemment, ça ne doit pas être une accusation, ça ne doit pas être quelque chose qui accable les gens, ça ne doit pas être une destruction, mais nous devons redire la parole de Dieu. C'est une relation voulue et protégée par le Créateur. C'est une relation fondée sur l'enseignement biblique. En d'autres termes, on ne choisit pas à quelles conditions on se marie, on ne choisit pas pourquoi on se marie, pour qui on se marie. On a des conditions bibliques qui nous sont imposées et nous devons y entrer comme ça. Raison pour laquelle on dit toujours aux gens, le mariage est une question d'engagement, pas d'amour. Alors, j'ai pas dit qu'il ne faut pas d'amour pour se marier, mais en tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est une volonté de s'engager, de dire « je vais le faire, je vais m'engager à ça, je vais persévérer dans cette résolution que j'ai prise aujourd'hui, je vais le faire ». Et c'est pour ça que ce sont des gens matures qui peuvent se marier et qu'on refuse qu'on se marie avant 18 ans en Belgique par exemple, parce qu'il faut être en capacité de s'engager pour une décision qui va nous impacter toute notre vie jusqu'à notre mort. Il faut s'engager. Et d'ailleurs, dans la Bible, quand on nous parle d'Isaac et de Rebecca, eh bien, on nous dit que, en parlant d'Isaac, il l'épousa et il l'aima. En parlant de Rebecca. En d'autres termes, il l'a d'abord épousée et puis il l'a aimée. Ce qui a fait que pendant des siècles, on a dit, écoute, tu l'aimes pas, mais tu l'aimeras après. Ce qui est aussi mauvais, hein, parce que c'est un peu laisser les choses au hasard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui compte, c'est de s'engager. Il faut avoir la capacité de l'engagement. Et donc la question qu'on doit poser aux jeunes qui veulent se marier, c'est pas est-ce que vous vous aimez ? Ça oui, d'accord, c'est bien. Oui, est-ce que vous aimez ? Oui. Ça c'est une question, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce que vous voulez vous engager ? Est-ce que vous prenez conscience de l'engagement ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous allez faire ? Parce que vous faites ça à moitié réveillé en disant ben on verra bien. Moi je connais dans ma famille une jeune fille qui allait se marier. Et une semaine avant son mariage, on était tous ensemble en train de discuter et on nous dit alors comment tu te sens pour ton mariage ? Hein, alors, t'es contente ? Et t'as pas peur ? Et on dit non, ça va. De toute façon, si ça marche pas, après on recommence, hein, on en fait un autre, on marie. Voilà. Alors, bien évidemment, devinez ce qu'il y a à deviner. Après un an, elle a divorcé, bien évidemment. Si vous rentrez déjà dans votre mariage en vous disant « si ça marche pas, j'en prendrai un autre ben, », dès que ça ne marchera pas, vous allez trouver une solution pour vous évader, bien évidemment. Donc, cette mentalité est destructrice, bien sûr. Et donc, raison pour laquelle, moi je dis, n'ayons pas peur de bien demander aux gens. Vous êtes sûr ? C'est vraiment ça que tu veux faire ? Tu es vraiment sûr de toi ? Ou est-ce que tu te demandes, tu n'es pas très sûr, t'es pas... C'est une alliance importante. Tout mariage devrait avoir pour but la gloire de Dieu avant toute chose, la communication et le soutien mutuel des époux, la protection et l'épanouissement de la famille au sens large, les enfants, les petits-enfants, les cousins, les tantes, la cohésion de la société. Vous savez que la société, la loi, protège la famille en imposant certaines choses, en fixant des conditions, et d'ailleurs dans le code civil, on parle des lois pour l'ordre de la famille, pour la sécurité des familles. Dans les lois qui sont faites, c'est toujours le juge peut dire telle disposition, sauf si l'intérêt des enfants mineurs est en danger. En d'autres termes, les enfants mineurs, attention, la famille, attention. Donc la société aussi veut protéger la famille. Pas comme nous, bien évidemment, mais la société met des règles parce que la société est consciente que la famille est l'élément de base de la société. Et qu'il faut la protéger, c'est à partir d'elle qu'on éduque les enfants, qu'on apprend à ne pas tuer, à ne pas voler, c'est là qu'on éduque les enfants, c'est là qu'on a une forme, c'est là qu'on apprend les premières règles de vie. La famille est essentielle, la société aussi en est consciente. Mais nous, chrétiens, parfois nous n'en sommes pas conscients, nous minimisons ça. Alors que c'est vraiment tout à fait essentiel. La loi, d'ailleurs, va par exemple imposer, même quand il y a cas de divorce, les pensions alimentaires, par exemple. Les époux qui divorcent doivent payer les pensions alimentaires pour qu'on puisse subvenir aux besoins de la famille qu'on a laissée. Donc, il y a un cadre établi autour de la famille. La loi veille sur la famille. La loi, elle aussi, prend conscience de ce que la famille est essentielle et qu'une famille qui ne va pas bien, elle fait aussi des enfants qui ne vont pas bien, qui n'iront pas bien et qui ne feront pas de bonnes choses dans la société. La délinquance... On peut franchement dire, dans plus de 80%, la délinquance, elle naît dans des problèmes familiaux. Les délinquants sont rarement des jeunes gens qui viennent de familles équilibrées, harmonieuses, et puis qui un beau matin se disent « Oh là là, j'irais bien voler à côté ». C'est souvent des personnes à qui on n'a pas donné beaucoup de cadre, ou alors qui ont vu des choses traumatisantes, qui ont été abusées, qui n'ont pas de structure, pas d'autorité, pas de règles, pas d'amour aussi, et qui voilà, se sont retrouvés dans la société et qui ont fait ce qui leur passait par la tête. Alors, la Bible va nous encourager à ce que... Ah oui, c'est la bonne heure, en fait. Je crois que ce n'était pas la bonne heure. Donc, il est bien moins 10. Oh. Ah, c'est ça. Oui. Bon, je vais faire vite, alors. Je vais faire vite. Et... Donc on n'a pas attendu pour rien. Bon, je vais aller rapidement alors. Oui, bon, comme ça on aura quand même un temps de questions-réponses. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, tant qu'il fait clair, ça va. Je serai retourné. Parce que je me suis dit, la rue Léon d'Osimon, c'est la plus longue rue que j'ai jamais vue de ma vie. Je n'ai jamais vu une rue pareille. Je me disais, mais est-ce que c'est une blague? À gauche, rue Léon d'Osimon, à droite aussi, c'est pas possible. Bon, soit, c'est la parenthèse. Mais en tout cas, la Bible nous encourage à ce que le mariage se fasse dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul va dire qu'effectivement, l'épouse qui a perdu son mari peut se remarier, bien sûr, mais que ça se fasse dans le Seigneur. Que ça se fasse dans le Seigneur. Alors ça par contre, c'est un grand problème, un grand souci dans les églises, parce que, bien évidemment, on a du mal à entendre cette parole-là. Parce qu'on ne se rend pas compte que, justement, je l'ai dit avant, tout mariage devrait avoir pour but, premièrement, la gloire de Dieu. Et on est tellement égoïste qu'on se dit, tant que moi j'ai l'amour dont j'ai besoin, tant que moi j'ai la maison dont j'ai besoin, l'amoureux dont j'ai besoin, tant que j'ai des enfants et que tout se passe bien, je suis content. Mais on oublie que, en épousant un non-croyant, bien évidemment, nous n'allons pas tous les deux concourir pour la gloire de Dieu, nous allons concourir au bien mutuel l'un de l'autre. Mais il va être difficile de chercher la gloire de Dieu. Ce ne sera pas impossible, et ça va parfois créer des grandes souffrances chez le chrétien qui a épousé un non-croyant, parce qu'il va souffrir pour essayer de servir Dieu, pour essayer de prier. Et vous connaissez peut-être des gens qui prient, qui ont leur petite Bible, et puis leur conjoint non-croyant vient dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pries encore? Tu lis encore ta Bible ?» Bien évidemment, c'est compliqué. Quand on est avec un non-croyant, en tout cas, de se donner à Dieu. Ce n'est pas impossible. Dans l'église où je suis, il y a des personnes qui ont épousé un non-croyant, qui vient tous les dimanches à l'église, qui écoute tous les dimanches le message. La personne n'a pas l'air plus convertie que ça, ne veut pas être baptisée, n'est pas touchée, mais par amour pour son conjoint, vient tous les dimanches à l'église depuis des années. C'est très bien, mais malheureusement, même si c'est bien, c'est positif, mieux vaut ça que de se battre tous les dimanches matins. Mais en tout cas, on reste quand même en dessous de ce que Dieu désire. Ce que Dieu désire. Bon, je peux sauter certaines choses que j'aborderai. Voilà, je vais sauter la communication alors. Pourquoi exprimer l'amour ? Nous avons... Non, pardon, c'est pas ça. Voilà, c'est plutôt ici. Alors, rappelez-vous que le thème de base, c'était le mariage et le célibat comme signe du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Eh bien, le mariage, la particularité tout à fait essentielle du mariage, c'est que le mariage est la préfiguration des noces de l'agneau, et l'image de la relation entre Christ et entre l'Église. C'est un vécu humain qui nous élève à la relation de Dieu, qui nous élève à la volonté de Dieu, qui nous élève au plan de Dieu. Et c'est ça réellement qui est puissant dans le mariage, et raison pour laquelle avec un croyant c'est d'autant plus facile, c'est qu'on peut réussir à vivre son mariage autour de cet objectif de Dieu, autour de ce plan de Dieu pour le mariage, c'est-à-dire d'être le reflet de l'amour de Dieu pour son Église, le reflet de l'amour de Dieu pour les hommes, pour les humains. Et c'est pour ça qu'il va dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église, il faut que les femmes, il faut que les maris aiment leurs épouses. C'est une relation qui est tout à fait particulière, et l'apôtre Paul va dire, ceci est un grand mystère. C'est un grand mystère. C'est que, en Genèse, Dieu a établi un couple. Et ce couple a une vocation que l'on découvre en Apocalypse, c'est d'être cette préfiguration, cette image, ce portrait de la relation entre un homme et entre Dieu et l'humain, entre Dieu et l'Église. Et c'est là qu'il y a une puissance extraordinaire dans le mariage que nous devons redécouvrir, que nous devons vivre. C'est que Dieu, quelque part, dans cette relation-là, a imprimé son plan, a imprimé sa volonté, a imprimé l'éternité. Et chaque fois que nous prenons, par exemple, le repas du Seigneur, la Sainte Cène, eh bien, on dit, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je reviens, dans d'autres termes, vous annoncez la venue du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une annonce. La Sainte Cène, c'est non seulement un rappel de ce qui s'est passé, mais c'est aussi une annonce du royaume des cieux. De la même manière, le mariage est une annonce du royaume des cieux. La relation vécue, la relation conjugale, elle annonce le royaume des cieux. La relation familiale, elle annonce le royaume des cieux. Et en cela, le mariage est un signe du royaume des cieux. Il préfigure, comme on dit. C'est-à-dire que les choses ne sont pas encore là, mais il montre, il suscite, il prépare l'homme à cette relation et il donne un exemple, il montre des attributs de comment est-ce que ce sera dans la relation éternelle avec Dieu. Un don parfait l'un de l'autre. Le mariage est un signe du royaume de Dieu. Je vais rapidement au célibat juste pour avoir le parallèle, le reste on pourra le détailler. Maintenant, le célibat comme signe du royaume de Dieu. Alors, le célibat peut être une courte période de vie prémaritale, c'est-à-dire que voilà, les jeunes gens, avant de se marier, ben, ils sont célibataires, c'est évident. Tout le monde, même les gens mariés, ont été un jour célibataires. Ça peut être quelque chose de choisi, certains choisissent d'être célibataires, ça peut être subi, certains ne choisissent pas d'être célibataires, mais vivent comme ça. Les veuves sont célibataires, les veuves sont célibataires, les pères et mères de famille monoparentales sont célibataires. Le célibat, quelque part, c'est quand même beaucoup. Mais il peut y avoir plusieurs types de célibat. 500 000 familles monoparentales. 500 000 familles. Oh, c'est beaucoup. Waouh. Donc c'est pour dire que ce n'est pas du tout quelque chose de... C'est pas un petit nombre marginal, c'est quelque chose de commun quelque part, presque aussi commun que d'autres types de familles. Et donc, ça montre quelque part qu'on ne peut pas fermer les yeux en disant bah oui, bah, les célibataires, tant pis, non. Et dans l'église, s'il y en a 500 000 en Belgique, dans l'église, il doit y en avoir, en tout cas, proportionnellement, le même pourcentage. Et donc, Jésus vient nous donner un enseignement révolutionnaire sur le mariage, puisque quand il va dire aux disciples, écoutez, il ne faut pas séparer ce que Dieu a joint. Entre temps, il ne faut pas se divorcer. Les disciples vont dire, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de sa femme, il n'est pas bon de se marier. Ils étaient tout tristes, les pauvres, ils disaient, si on ne peut pas divorcer, alors... Ça montrait vraiment la mentalité du temps, hein. Et puis Jésus leur dit, oui, c'est vrai, mais tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume de Dieu. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Jésus vient apporter un enseignement complètement révolutionnaire. Que dans la société de ce temps-là, on n'avait jamais entendu quelque chose qu'est-ce qu'il raconte là. Il est en train de dire, le célibataire aussi, il vit, il peut être célibataire pour le royaume de Dieu aussi. En d'autres termes, Jésus vient dire, le célibat, c'est pas quelque chose de complètement marginal, c'est pas quelque chose de complètement dévalorisant, c'est pas quelque chose d'insignifiant. Le célibat aussi, ça peut ou ça participe à la gloire de Dieu, au royaume de Dieu. Et donc, en étant lui-même célibataire pendant toute sa vie, Jésus a montré quelque part une voie que les gens ne connaissaient pas. C'est-à-dire que quelque part, tous les rabbins du temps étaient mariés. Alors, d'ailleurs, pour être rabbin, il fallait être marié. Jusqu'aujourd'hui. Pour être rabbin, vous ne pouvez pas être rabbin célibataire. C'est pas possible, ça. C'est essentiel. Et donc, quand on voit un rabbin célibataire, tout le monde se dit, oui, mais hé, oh. Alors, pour la petite histoire, je suis célibataire. Voilà. C'était ça l'information. Mais donc, voilà. Ça veut dire, les gens se disaient, mais quelque part, qu'est-ce qu'il vient faire là? Et en plus, en quoi est-ce qu'il se permet de venir nous dire à nous qu'on ne peut pas divorcer? Alors lui, il n'a pas de femme. En d'autres termes, il ne sait même pas de quoi il parle, le pauvre. Et il ne sait pas comme ma femme est insupportable, n'arrête pas de crier, elle ne me fait pas ma nourriture. Et Jésus vient montrer aux gens une autre vision des choses en disant, avec ton célibat aussi, tu es un signe du royaume de Dieu. Avec ton célibat aussi, qu'il soit pour une courte durée, avant ton mariage, ou que ce soit pour toute ta vie, ou que ce soit après un veuvage, que ce soit après une séparation, avec ton célibat aussi, tu peux réaliser la gloire de Dieu. Et on va voir ça pourquoi. Alors, l'apôtre Paul parle clairement d'un don en disant « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » En d'autres termes, l'apôtre Paul dit « Je ne vous l'impose pas, mais si vous voulez rester célibataire, c'est mieux. » Alors, là encore aussi, l'apôtre Paul bouleverse tout, mais il est en train de montrer quelque part, non pas que le mariage n'est pas valeureux, mais en train de dire, avec le célibat aussi, on participe au royaume de Dieu. Avec le célibat aussi, on préfigure le royaume de Dieu. Et dans l'Église, on a tellement focalisé les gens sur le mariage que tous les célibataires ont l'impression que eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tourner les pouces et prier pour se marier. Si bien que quand on voit quelqu'un dans l'Église, on dit, alors quand est-ce que tu te maries, toi? Il est temps, il est temps. Donc, on considère que la personne ne sera réellement une vraie personne quand elle sera mariée. Mais l'apôtre Paul est à la suite de Jésus, vient révolutionner ça en disant « Oui, le mariage c'est très bien, mais les temps sont courts. » Et il va dire que celui qui est marié vit comme s'il n'était pas marié. Et ensuite il va expliquer en disant « Ben voilà, celui qui est marié cherche d'abord à plaire à son épouse et ensuite à plaire au Seigneur, tandis que celui qui est célibataire peut se donner complètement à plaire au Seigneur. » C'est comme ça que des religieuses, pendant des années, ont vécu dans des couvents où elles servaient Dieu à temps plein, sans charge de parents, sans devoir aller conduire les enfants à l'école, les amener, aller à l'hôpital quand ils sont malades, leur faire à manger, etc., etc. Elles étaient données pour le royaume de Dieu. Et même si ce n'est pas la voie ordinaire, même si ce n'est pas la voie la plus commune, nous devons aussi l'accepter comme étant un signe du royaume de Dieu. Que ce soit pour un temps, que ce soit pour toute la vie, le célibat aussi a cette promesse du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus dit en Matthieu 29, 22, verset 30, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Rappelez-vous, c'est la fameuse histoire où les enseignants de la loi voulaient encore tester Jésus et lui disaient, ben maître, si jamais un homme, une femme perd son mari et qu'elle épouse le petit frère et le petit frère et ça arrive cette fois et finalement arrivé au ciel, elle sera la femme de qui? Ils essayaient de la voir et puis Jésus avec cette puissance de Dieu qu'il avait en lui, cette sagesse, il leur dit, de toute façon au ciel il n'y aura plus de femme, il n'y aura plus d'homme, il n'y aura plus de mariage de toute façon. Donc, parce qu'au ciel, si je peux exagérer, au ciel nous serons tous célibataires. En tout cas, il n'y aura plus de mariage, celle que l'on connaît ici. C'est pour cette raison que le célibataire, il est aussi un signe du royaume de Dieu. Parce que le célibataire, il vit déjà comme on vivra dans le royaume de Dieu. Le célibataire, il est déjà en train de se donner à tous comme on le fera plus tard. Et donc, même si la voie principale de Dieu, c'est le mariage, puisque c'est ce qu'il a institué en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, quelque part, le célibat aussi nous anticipe, nous montre une image, une préfiguration du royaume de Dieu. Il y a, nous dit l'apôtre Paul, trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Sur cette terre, alors que nous vivons, alors que nous attendons le retour de Jésus, il reste la foi, l'espérance et l'amour. Arrivé au ciel, il n'y aura plus de foi, puisque nous n'aurons plus besoin de croire sans voir, nous le verrons tel qu'il est. Il n'y aura plus d'espérance, puisque tout ce que nous espérons, nous l'aurons reçu. La seule chose qui restera, c'est l'amour. Et l'amour au ciel prendra toute la place. Et la grande caractéristique de l'amour au ciel, c'est que l'amour ne sera plus exclusif. En d'autres termes, la manière dont nous nous donnons l'un à l'autre dans un mariage, elle est exclusive. Nous ne nous donnons comme ça qu'en tant que couple. Ce que je donne à mon conjoint, je ne le donne à personne d'autre. Ce que je donne à mon époux, je le donne à personne d'autre. Mais au ciel, nous nous aimerons tous de cet amour complet, de ce don l'un à l'autre, sans exclusivité. Le mariage est fantastique. en ce qu'il permet une communion entre deux êtres, mais au ciel sera possible la communion entre tous, où il n'y aura plus de barrière qui empêchera les uns d'aller vers les autres. Alors aujourd'hui, quand on est marié, bien évidemment, ben, vis-à-vis un homme vis-à-vis des femmes doit avoir de la retenue, il ne peut pas aller chez des dames, voilà, il doit, vis-à-vis de son épouse, il doit avoir une exclusivité, il y a une relation particulière, mais il y a des choses qu'il ne peut donner qu'à son épouse, une attention qu'il ne donnera qu'à son épouse, un amour, un investissement qu'il ne donnera qu'à son épouse. Mais dans le ciel, nous sommes tous comme des anges, nous pourrons nous donner les uns aux autres. Bien évidemment, il n'y aura plus de besoins tels qu'on les connaît ici, hein. Mais en tout cas, nous aurons des relations sans barrière, des relations données les uns aux autres. Et donc le célibataire, lui aussi, il est un signe du royaume de Dieu, qu'il subisse son célibat ou qu'il l'ait choisi. Il peut être aussi un signe du royaume de Dieu. Il peut aussi anticiper le royaume de Dieu. Et pour terminer, le célibataire peut avoir une vie spirituelle riche. Il ne faut pas être marié pour découvrir les merveilles de Dieu, pour découvrir sa grâce, son amour, sa puissance, ses vertus, ses bontés, sa bonté. Le célibataire peut avoir un cheminement dans la foi où il découvre Dieu, où il découvre la puissance de Dieu, où il vit sa grâce. Le célibataire peut avoir une vie de dialogue avec Dieu, de confiance. Ses blessures peuvent être guéries. Dieu peut remplir une vie, Jésus peut remplir une vie. Et parfois, nous n'osons pas dire ça. Nous disons, mais non, il n'y a qu'un conjoint qui peut remplir une vie. Jésus peut remplir une vie, si bien que quelqu'un peut se sentir complet dans la présence de Dieu. Le célibataire peut se réaliser dans la foi. En d'autres termes, il peut aussi être fécond, le célibataire, ou le marié quand il ne sait pas avoir d'enfant. Il peut spirituellement féconder. Il peut spirituellement avoir des enfants spirituels. Il peut féconder des projets humanitaires. Il peut faire des services aux autres dans l'église. Il peut faire des services aux orphelins, aux veuves. Le célibataire peut se donner aux autres. Le célibataire peut faire de la mission, des créations artistiques. Le célibataire peut se donner à temps plein pour la gloire de Dieu, pour des causes parfois qui demandent un investissement total, qu'on ne peut pas parfois avoir quand on est marié. Parce que quand on est marié, voilà, oui, je peux servir, mais il y a la famille derrière, je ne peux pas l'oublier. Le célibataire aussi peut glorifier Dieu. Et donc, Ésaïe 35, 1 dit... Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. La solitude s'égaiera. Avec Dieu, la solitude peut aussi s'égayer. Et le célibataire peut être justement celui qui empêche la solitude des autres, aller visiter les sœurs âgées de l'assemblée, les personnes seules, organiser des choses pour les personnes mises à l'écart. Dieu, Jésus peut remplir une vie. Et donc, le mariage et le célibat sont des signes du royaume de Dieu. Amen. Voilà. Merci en tout cas.